glisser, tomber les masques et les rôles, tomber les masques et les rôles. Bonheur, bonheur, désir comme un appel, bonheur, tout ce qui vit te fait envie, bonheur, tu te jettes à l'eau, tu souris, désir et tu commences à vivre.
Tu se marres dans le cast. Nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire. La vie se triste. La vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec un programme chargé. Alors, je ne vais pas beaucoup parler parce que nous avons deux invités aujourd'hui. Nous avons Véronique Ovaldé pour un recueil de nouvelles qui s'intitule « À nos vies imparfaites » qui est paru chez Flammarion, et Gérard Guégan, mais en tant qu'auteur, avec un excellent livre qui s'intitule « Le chant des livres » et qui est paru chez Grasset. On retrouve tout de suite Véronique Ovaldé, « À nos vies imparfaites » chez Flammarion. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le très grand plaisir de retrouver Véronique Ovaldé, et encore plus grand plaisir, c'est un recueil de nouvelles. Et moi, je suis une fan inconditionnelle des nouvelles, je trouve qu'il n'y en a pas assez, que c'est toujours le problème parce que les éditeurs ne veulent plus publier de nouvelles, parce que ça, disons que ça ne marche pas. Et là, donc, c'est un recueil de nouvelles qui a un très beau titre, qui s'appelle « À nos vies imparfaites » et c'est paru chez Flammarion. Alors, merci à ce double titre, Véronique Ovaldé, d'être là pour parler de « À nos vies imparfaites ». Alors, c'est un recueil de nouvelles, mais il y a quand même un fil rouge. Enfin, il y a un lien entre les différentes nouvelles. C'est un peu une construction à la Marabout bout de ficelle.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est de voir comment, malgré le fait que ça soit des nouvelles, eh bien, ça constitue un tout.
Oui, parce que c'est quelque chose... Moi, j'adore les nouvelles aussi. Hein. Je suis une grande lectrice de nouvelles. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, particulièrement en France, et où on n'arrête pas de nous répéter que les lecteurs n'aiment pas les nouvelles. Donc ça, ça reste à déterminer, parce que quand, en publiant ce recueil, je suis allée en librairie et il y a tout un tas de gens, de lecteurs qui viennent, de lectrices qui viennent en me disant « Oh, on est content parce qu'on adore les nouvelles,
bah, voilà,
comme vous, Alexandrine voilà. ». Donc il faut croire qu'il n'y en a peut-être pas assez finalement. Mais c'est toujours pareil, hein, les éditeurs se répètent. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans l'édition il y a fort longtemps, et il était toujours dit qu'il ne fallait jamais faire une couverture verte, que ça portait malheur. Bon, je crois qu'il y en a plein des couvertures vertes et tout va bien. Hein. Et donc, c'est assez drôle, ce genre de... C'est presque des superstitions, genre, non, faut pas faire de nouvelles. Et en effet, moi, j'en ai beaucoup qui viennent de l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de... En revanche, beaucoup de novelistes anglo-saxons, il y en a beaucoup, qu'ils soient américains, anglais, irlandais ou canadiens. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important chez eux, puisqu'ils commencent souvent à publier dans des revues de nouvelles. Et puis, chez les latinos, chez les japonais. Et en fait, moi, j'avais très envie d'écrire des nouvelles, mais je voulais que ce soit un vrai recueil. C'est-à-dire que ce ne soit pas des nouvelles disparates, hétérogènes. Il fallait que ce soit un seul univers. Et j'avais en tête, depuis hyper longtemps, ce film... donc c'est pas un recueil en l'occurrence, c'est un film de Robert Altman qui s'appelle Shortcuts.
Oui, bien sûr.
Qui date de 93, je crois. Et Shortcuts, c'est finalement lui-même un recueil de 9 nouvelles, je crois, de Raymond Carver. Je crois que c'est 9. Parce qu'après, il y a eu un recueil qui a été fait, qui a été publié, oui. Je crois qu'il s'appelait 9 nouvelles et un poème ou un truc comme ça. Peut-être que je me trompe dans les chiffres. Mais en tout cas, voilà, c'est un recueil de plusieurs nouvelles de Raymond Carver qui, elles-mêmes, ne sont, sont complètement disparates, puisqu'elles sont dans des recueils différents, dans des livres différents. Donc il n'y avait aucun lien entre elles, a priori, sauf qu'elles étaient écrites par Carver et qu'elles étaient dans sa veine, dans son univers à lui. Et Altman, il en a choisi donc plusieurs et il les a liées dans Shortcuts. Et ça m'a toujours fascinée. Ça m'a toujours fascinée parce que je crois que c'est quelque chose qui correspond à aussi ma fascination pour nos vies humaines qui finalement se croisent, se décroisent, se recroisent. C'est toujours quelque chose, les coïncidences mystérieuses, toujours quelque chose qui m'a énormément plu. Donc là, créer des liens entre les personnages, c'est aussi une façon d'entrer dans un seul univers par plein de portes différentes. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Puis j'aime bien ce fourmillement. C'est ludique aussi.
Oui. Et dans une des nouvelles, justement, de « À nos vies imparfaites », ce recueil de Véronique Obaldé paru chez Flammarion, un des personnages, qui est dans le bus, on en parlera dans quelques instants peut-être, dit qu'on est chacun dans notre histoire et tous les autres ne sont que des figurants. Et j'ai trouvé ça, effectivement, très juste. Et c'est un peu ça, puisqu'on parle de films, et les autres sont les figurants de nos vies.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui depuis toujours m'intéresse, cette idée qu'il pourrait y avoir, c'est ce que je dis dans le livre, au-dessus de nos têtes, vous êtes dans les transports en commun, vous voyez tous ces gens qui sont les uns à côté des autres, pressés les uns à côté des autres, et ils sont la personne la plus importante de leur vie. Et il pourrait y avoir un phylactère comme ça, une bulle au-dessus de leur tête, et qui dirait « je suis la personne la plus importante de ma vie ». Et il pourrait y en avoir comme ça des centaines dans le même bus, et donc les autres ne sont que des gens souvent qui vous dérangent. D'ailleurs, si vous ne les regardez pas attentivement, les autres ne font que vous déranger. Et changer de focale, voir les autres non pas comme des figurants de nos vies et des gens qui nous dérangent a priori, c'est quelque chose qui change tout. Parce que vous les regardez comme des gens importants, comme des gens qui ont des vies. Dans un de mes livres, il y a longtemps, dans La Grâce des Brigands, il y avait tout un chapitre. Ça se passait dans un bus aussi, mais ça se passait dans les années 70 en Californie, à Los Angeles. Et il y avait une jeune femme qui débarquait, elle, de sa cambrousse, qui débarquait dans un bus bondé. Puis vraiment, les bus à l'américaine, où il n'y a vraiment que les gens qui n'ont pas de voiture, donc qui prennent le bus. Et elle leur invente des vies. Elle leur invente non seulement des vies, mais des avenirs. Elle leur invente un futur. Souvent assez tragique d'ailleurs. Et c'était quelque chose, moi, que je fais.
On fait tout ça, on est à la terrasse d'un café, on regarde la personne en face et on fait l'histoire.
Mais évidemment. Alors, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas, c'est très récréatif. Et récréatif, et en même temps, je me dis, parfois, c'est comme un exercice d'a priori.
Ouais.
parce que vous regardez la personne.
Ça peut être très cruel.
Ça peut être très cruel. Et vous savez pas ce qui est réellement sa vie. Alors après, quand vous êtes un peu expérimenté, il y a des choses, il y a des signes. C'est ça qui est drôle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ou alors la relation d'entretien de personnes que vous voyez justement à la terrasse d'un café. Les couples adultères, c'est toujours amusant. Vous les repérez hyper vite dans les restaurants. et dans les bars, et ça c'est drôle, et donc il y a tout ça, c'est quelque chose de ludique et de qui peut être cruel en effet, mais aussi je trouve c'est peut être, moi je le prends aussi comme un exercice assez aimant, c'est-à-dire je regarde les gens et mes personnages se regardent et regardent les autres justement moins comme des figurants que comme des personnages les plus importants de leur vie.
Oui, et c'est ça qui est intéressant dans ce recueil de nouvelles, donc à nos vies imparfaites, parce que si on prend ce personnage, elle est dans le bus, elle commence à se dire, ben voilà, statistiquement, doit y avoir un violeur, peut-être même un serial killer dans ces deux violeurs. Et petit à petit, le regard change. Et au travers de plusieurs de ces nouvelles, il y a ça, justement. Il y a... j'allais dire, une certaine forme de déterminisme. On est avec un personnage, c'est le cas du premier par exemple, qui n'a jamais de chance, qui a toujours des situations absolument improbables, qui s'en amuse et qui a choisi d'ailleurs le parti de l'humour, qui est très important aussi dans le livre, pour surmonter ça. Et puis à un moment donné, eh bien, il décide de changer de regard. Et c'est le cas de beaucoup de personnages dans ce recueil, c'est après tout, pourquoi pas ? Et si je voyais les choses, allez, aujourd'hui, ça change.
Oui, oui, mais alors ça, c'est en effet quelque chose qui revient très souvent dans ce recueil. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu l'intituler avec l'un des titres d'une nouvelle, comme ça se fait régulièrement dans les recueils. Je voulais un titre qui les englobe toutes, qui les accueille toutes. Et c'est pour ça qu'à nos vies imparfaites, en relisant bien le manuscrit, je me suis dit que c'était exactement ça aussi qui les reliait, tous ces gens... tous ces personnages qui font comme ils peuvent en fait, et puis il leur est donné quelque chose au départ, alors comme ce pauvre Auguste Palanquin dans la première nouvelle, qui en effet est un garçon qui n'a pas de chance, et il a même peur que ce soit une forme d'hérédité, que son père n'avait pas de chance, son grand-père n'avait pas de chance,
avec des morts tragiques,
et ils ont des morts absurdes.
Ah oui, tellement
belles et absurdes. Donc il a quand même un peu peur de porter ça sur ses épaules, et puis et il essaye comme ça d'ailleurs c'est la première fois d'une première phase du livre, il essaie de changer de braquet. Voilà. Et donc je crois qu'on est nombreux aussi à un moment dans nos vies, soit changer de focale, soit changer de braquet. On se dit, allez, aujourd'hui, ça va changer ma vie. Je vais plus être cette personne à qui rien ne réussit. Et je dis aussi d'ailleurs, le fait de considérer qu'on est quelqu'un qui n'a pas de chance, au fond, après, ça devient un système assez auto-centré.
Oui, mais
moi, c'est toujours sur moi que ça tombe. Oui, d'accord, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche.
Oui, il est même honteux quand il va dans son groupe de parole des malchanceux anonymes, parce que des fois, il lui arrive des trucs bien, et ça casse son rôle.
Et il n'ose pas le dire, D'ailleurs, il est obligé de quitter les malchanceuses anonymes, parce qu'il lui arrive des choses, parfois, qui ne sont pas aussi tragiques, ou... Même pas tragique d'ailleurs, aussi stupide que les petits coups de ma chance de ce pauvre Auguste qui finit par se faire surnommer par ses amis Auguste Baraka. Et donc ce truc sur la malchance, sur les déterminismes, les fatalités, la lutte contre les fatalités. Les fatalités aussi qu'on s'impose nous, hein,
en se
persuadant.
Mais il y a toute cette importance de la parole performative et de la pensée performative, parce que lui se persuade qu'il n'a pas de chance, et puis à un moment où il va se persuader que si aujourd'hui c'est son jour de chance, et ben ça va modifier les choses. Et ils sont plusieurs personnages dans le recueil à avoir cette pensée performative. Quand la femme qui est agente immobilière va retrouver sa fille dans une situation qu'on ne dévoilera pas, mais qu'elle va lui dire on va y arriver, ça va le faire, et ben oui,
c'est ce que d'ailleurs j'utilise ce mot dans le livre, que c'est performatif tout ça. Elle lui dit en effet à sa fille, donc il se retrouve dans une situation, je veux expliquer, une adolescente qui se retrouve dans une situation pas très rigolote, mais pas non plus tragique. Mais qui peut vous mettre un petit coup quand vous êtes adolescente. Et elle lui dit, on va se débrouiller, on se débrouille toujours. Ce qui est faux, en fait. Parfois, on n'arrive pas à se débrouiller. Et donc, elle sait qu'elle ment, peut-être. Mais ce côté performatif de la phrase, il est fondamental. Il n'y a rien de mieux que quand quelqu'un, quand vous n'allez pas très bien, et quelqu'un dit, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller. Et on le sait bien que c'est, il n'en sait rien en fait, l'autre. Mais
l'autre a confiance en nous.
Et cette confiance.
Oui, c'est ça.
C'est, je pense, après coup, je me suis dit, c'est un livre aussi sur la confiance.
Tout à fait.
Sur la confiance qu'on arrive parfois à s'accorder et qu'on met du temps à s'accorder. Mmh. Et puis, la confiance que les autres vous accordent. Parce que, justement, dans la première nouvelle, il y a la rencontre entre l'agente immobilière, donc on retrouvera la deuxième nouvelle. Et cette agente immobilière avec cet Auguste qui n'a pas de chance. Et en fait, elle va, elle, décider aussi de lui faire confiance. Et ça, c'est ça qui va changer les choses. Et donc, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de l'écriture du livre, que c'était quelque chose de cet ordre-là.
Je t'ai croisé un samedi soir et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter tout en restant libre moi et libre toi, car le roi de l'amour n'a plus besoin d'esclaves. Adieu, adieu la nuit. Adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Alors nous sommes séparés comme déjà saturés des délices du futur. Et j'ai marché seul, guidé par ton ombre. J'ai traversé la ville déserte, encore étincelante du voyage des rêveurs. La nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Je t'ai croisé un samedi soir et déjà j'aimais l'odeur de ton rire. Et le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Oh, adieu, adieu la nuit, adieu, adieu, adieu. Adieu tristesse, adieu les larmes, adieu la nuit. Adieu, oh, adieu, adieu. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Adieu, adieu.
il y a beaucoup de relations aussi entre les, justement les enfants, les adolescents et les parents, les adultes. Faire confiance à l'adulte, que l'adulte vous fasse confiance. L'impression qu'on a toujours de ne pas être digne de confiance. On est quand même nombreux à penser qu'on n'est pas digne de confiance. Et ça, c'est quelque chose... Alors, c'est pas de la... j'écris jamais des livres psychologiques, en fait, au fond. C'est pas vraiment ça, le fond du truc. Mais ils sont en situation, et c'est des choses qui nous sont communes, mais c'est des choses que je vais chercher, évidemment.
Oui, parce que...
Je suis religionnaire.
Je pensais, en parallèle, toujours avec la confiance de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, à quel point ça peut ne pas exister aussi. Et ça revient dans plusieurs nouvelles. Je pense à Bob, cette adolescente, avec les phrases terribles que peut lui asséner son père ou les oui. enseignants. Elle a pas tout à fait la lumière, ou elle, c'est pas celle qui va briller le plus dans le sapin. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises, ce côté on est condescendant, on t'aime bien, mais quand même, t'es pas à la hauteur.
Oui, mais ce qui est intéressant avec Bob, d'ailleurs, qui donc subit en effet un père que lui-même une haute, très haute idée de, enfin qui a lui une très haute idée de
oh, je déteste.
Moi aussi, je l'appelle tout cet homme. Il me rappelle quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Et en fait, c'est moche en fait la façon dont il se comporte avec elle, et parce que il est déçu en fait. Donc elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il imaginait.
Il est déçu pour son propre ego.
Mais évidemment. Et en fait, quand je parle de sa mère à Bob, je dis que Bob aussi, elle se rend pas bien compte, parce que sa mère, en revanche, aime beaucoup sa fille et lui fait confiance. Elle a peur pour elle, comme
elle est maladroite, comme toutes les mères.
Comme toutes les mères, et qui plus est, vous avez encore l'air plus maladroit quand vous êtes face à un adolescent. Qui a toujours l'impression d'avoir tout inventé. Ils ont inventé l'adolescence quand ils sont adolescents, quand même. J'écris que, en effet, elle ne se rend pas bien compte, peut-être, Bob, que toutes les mères ne sont pas... ne sont pas du genre à vous féliciter de votre habileté avec un marteau si elle vous retrouve... si vous arrivez un jour chez elle avec un cadavre dans votre coffre de voiture. Donc, il y a des mères qui vous admirent tout le temps. Et en fait, la mère de Bob admire sa fille. Mais Bob, elle n'est pas capable de l'entendre. Déjà, le fait... Alors, il y a toujours cette histoire des noms. Il y a toujours des noms qui changent dans mes livres. Il y a quelque chose... De livre en livre, je me rends compte qu'il y a des affaires de noms, c'est important. Et donc, Bob, elle change plusieurs fois de nom, en fait.
Oui.
Parce qu'elle le choisit, elle n'est pas contente de son nom. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je trouve qu'un nom... Ça nous oblige aussi. Et ça nous est donné.
Puis celui qui est donné par les parents, bien sûr.
Voilà. Et ce nom nous oblige.
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Comment on l'incarne ?
Et c'est aussi un des thèmes de ces nouvelles. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous est donné, justement. Et le rapport au temps est très important aussi dans les nouvelles parues dans « À nos vies imparfaites » chez Flammarion. Qu'est-ce que c'est que vieillir ? Et comment ça se passe vieillir ? C'est un questionnement de plusieurs personnages dans plusieurs nouvelles. Oui. On évoquait Bob avec cet âge très particulier de l'adolescence. Oui. Il y a aussi des enfants pour qui le rapport au temps est différent. Il y a cette femme qui est dans l'immobilier. Il y a une femme plus âgée qui vient de perdre son mari et qui va jouer la vieille dame. Et puis, il y a un très, très vieux qui va vivre ses derniers jours. Et donc, on voit que... Vieillir, c'est tout un chemin que vous explorez aussi.
Le vieillissement, une forme de dissolution de ce qu'on est, et puis la grande affaire de nos vies, nous les humains, c'est quand même de s'accommoder de ça, c'est pas simple tout ça. Il me semble, c'est quand même l'une des grandes difficultés de notre conscience. De notre nature éphémère, c'est pas simple. Et non seulement notre nature est éphémère, mais après-demain n'est peut-être pas, enfin pendant un temps c'est après-demain sera sans doute mieux qu'aujourd'hui, mais à un moment donné après-demain, vous entendez les gens qui atteignent un certain âge, ils disent après-demain en fait on sait que ça sera moins bien. Ça sera moins bien parce qu'on sera moins en forme, parce que ça nous fait un jour de moins à vivre. C'est ce qu'elle dit, la pauvre Eva, quand elle vivait avec son affreux mari, et elle disait que le matin, elle se réveillait en se disant un jour de moins à vivre. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir ce genre de pensée. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous genre, ouais, le matin, super, allez, on va changer de braquet. On a des moments aussi où on se dit, bon, alors, tant qu'il me reste, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Et puis, si possible, est-ce que je ne pourrais pas arrêter de rater ce temps qui m'a été donné? Et parce que c'est la seule chose qu'on a entre les mains. C'est le temps qui nous est donné. On ne sait même pas combien de temps ça va durer, combien il va durer ce temps. Mais c'est ce qui nous est donné. Et l'idée du vieillissement, l'idée d'une forme de dépérissement, est quelque chose d'ailleurs avec laquelle il faut se réconcilier. C'est pas simple, hein.
Non.
C'est pas simple. Et donc les personnages ont. De ce livre explore cette forme de réconciliation possible, bah comme ils le peuvent, avec ce qu'ils sont. Et encore une fois, avec des paroles performatives. Par exemple, Eva, l'agente immobilière, elle dit, bah voilà, c'est bien, c'est quand j'aurai 50 ans, j'ai hâte d'avoir 50 ans, dit-elle, ce qui est très assez rare chez les femmes, c'est rare que les femmes disent, oh, j'ai hâte d'avoir 50 ans. Donc elle dit, j'ai hâte d'avoir 50 ans, parce que comme ça, j'en aurais fini avec l'instinct de nidification, je serais tranquille. Et ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, on en a fini avec l'instinct de nidification à 50 ans. Donc en fait, il y a quand même une partie des soucis qui s'échappent. Mais au fond, elle se rend compte qu'elle se trompe elle-même quand elle dit ça. En fait, elle n'a pas non plus complètement hâte hein, d'avoir 50 ans. Et donc, c'était quelque chose. Et cette femme, la vieille dame qui... On ne sait pas très bien quel âge elle a, mais elle-même, elle veut se faire passer pour une vieille dame parce qu'elle trouve que ça donne l'air inoffensif. Et celle qui vient de perdre son mari, c'est la journée des funérailles. Et au fond, elle joue un peu à la vieille dame. Et c'est pour ça que j'interviens d'ailleurs dans la nouvelle. À un moment donné, je crois que je dis que la manière dont je la décris... Ça met le lecteur dans une forme d'indécidabilité de l'âge qu'elle peut avoir. Ça, ce sont aussi des choses qui m'amusent parce que ça veut dire que c'est comme ça qu'elle veut être perçue. Ça aussi, c'est un truc très important.
C'est quelle image on va donner.
Quelle image on donne de soi et l'impossibilité de donner à voir qui on est réellement et l'impossibilité de voir, en fait, qui est l'autre. L'opacité des êtres est un sujet inépuisable. Et la littérature, elle parle énormément, en fait, de cette opacité. Et ces personnages sont eux-mêmes les jouets de l'opacité des autres et le fait qu'ils aient l'air d'être des gens qui ne sont pas. Par exemple, Eva dit... tout le monde la trouve pétillante, elle porte ses petits manteaux jaunes et elle est...
Et ses talons trop hauts.
Et tout le monde lui dit qu'elle est pétillante. Et elle se sent pétillante comme un tas de sable. Mais au fond, c'est pas mal de ne pas donner complètement à voir ce que vous êtes. Et de choisir ce que vous donnez à voir. Vous pouvez choisir, parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez quand même choisir ce que vous donnez à voir.
Dans l'extrême, en matière d'âge, c'est le docteur Schmull.
Alors,
quel personnage ? Alors lui, il s'est construit un personnage complètement. Et c'en est presque fantastique. On le voit complètement.
Oui, oui. Puis en plus, je crois que je commence la nouvelle en disant que le docteur Schmull avait l'air d'avoir 812 ans.
Ouais.
Et donc, on a... Alors après, je le décris, on a affaire à quelque chose qui ressemble plutôt à du bois pétrifié qu'à... un humain, et il est...
Se nourrissant de prunes...
De prunes moisies et de madeleine sortie du four. Et,
à 16h30.
À 16h30 pile. Et donc, ce personnage, voilà, il se construit une forme de légende. J'aime bien les personnages un peu excentriques.
Oui.
Et il est très excentrique.
Oui, oui.
Et, de toute façon, j'aime bien les gens un peu excentriques. Je trouve ça amusant de traverser l'existence en essayant de... en se laissant aller à ces bizarreries, vous voyez, parce qu'on a tous des bizarreries, mais on les assume plus ou moins,
Et ah, lui, il va jusqu'au bout.
Et lui, il va jusqu'au bout des bizarreries. Et lui, il a un cabinet de curiosité, ah, d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'excentrique. C'est les excentriques qui ont des cabinets de curiosité. Donc il va chercher toutes les bestioles du monde les plus étranges, et puis les fossiles les plus étranges, et jusqu'au moment où il la veut absolument. Parce qu'il y a aussi ça qui m'intéresse dans le cabinet de curiosité, chez le collectionneur, c'est l'avidité. Ah, oui. Et il veut ce qui pense être... Voilà, il veut l'impossible, vu que ce qu'il pense être le dernier... Enfin, le seul dodo empaillé de toute la planète. Donc ça, il veut se le procurer. Et ça, cette idée quand même de l'avidité et du désir de s'approprier les choses est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est aussi une forme de consolation pour beaucoup.
Allez, j'accumule. T'as cherché le matériel, bien sûr.
J'accumule et j'aménage mon tombeau. En gros, c'est ça. Ils aménagent leur tombeau. Mais, encore une fois, on fait comme on peut. Hein. Nous tous. On se débrouille. On essaie de se débrouiller.
Trop d'espace, soit ça déborde, soit ça dépasse, ça laisse traîner son corps au milieu du décor. Ça vient respirer mon air, ça vient me dire comment faire, ça gêne et ça porte, ça en camisole. C'est l'outil du désaccord, l'incisive du remords. C'est le mien qui devient le nôtre. C'est lourd, c'est laid, c'est l'autre. Ce qu'il était beau le monde avant lui. Moi et ma gueule jusqu'à l'infini, sans aucun contour, jamais et toujours. J'étais la surface de l'eau, la caresse du courant d'air. J'étais le monde vu d'en haut, sans endroit et sans envers. Avant ma définition, avant l'heure des finitions, avant les erreurs et les fautes, avant les mots de l'autre.
Partout.
certaines histoires sont plus, plus drôles que d'autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Certaines sont terribles, sont absolument glaçantes. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du livre, c'est ce changement de ton d'une nouvelle à l'autre. Il y a certaines où on est quand même sur une histoire très douce. Je pense à l'histoire de
l'anniversaire.
Oui, par exemple.
Oui, la montée des eaux. Ça, c'était quelque chose qui, justement, en écrivant un recueil de nouvelles, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Parce que quand vous écrivez un roman, c'est pas le même investissement d'un point de vue de temps, d'énergie, d'espace mental. Ça prend des milliers d'heures et puis ça vous colonise totalement. Et puis, il y a une forme de cohérence nécessaire, générale. Alors que dans les nouvelles, même si justement, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles soient toutes en résonance et qu'elles fassent toutes écho les unes aux autres, ça, c'était tout à fait fondamental dans l'écriture de ce recueil. Et puis parce que c'était comme une complicité aussi avec un lecteur. Parce que vous avez bien vu, vous l'avez déjà vu ce personnage-là, telle page, etc.
Ah, il passe.
Ça, c'est assez drôle. Mais il y avait le fait que je pouvais aussi m'amuser à être une sorte de couteau suisse. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes écrivain, au bout d'un moment, quand vous publiez des romans, on vous catalogue, on vous étiquette. Alors moi, on m'a, à un moment donné, étiqueté une espèce de conteuse de réalisme magique. Parce que j'avais écrit un livre qui était plus dans cette veine, qui reprenait certains éléments. Enfin, il n'y avait rien de magique d'ailleurs dans ce livre, mais qui reprenait des éléments très latinos, comme ça, de ce type de littérature. Évidemment, tous mes livres ne sont pas du tout comme ça. Mais à un moment donné, on vous étiquette comme ça. Moi, comme le fait que je raconte des histoires, j'ai un immense plaisir autour de la fiction et de l'invention, on m'a dit. Ovaldelle est conteuse, c'est une conteuse. Alors c'est vrai que j'aime raconter des histoires, mais non seulement j'aime raconter des histoires, mais j'aime qu'on me raconte des histoires. Il n'y a rien qui m'intéresse plus au monde que on me raconte sa vie, les gens me racontent leur vie, me racontent des histoires, me racontent une anecdote, me racontent. C'est avec ça en fait que je me sens autre chose qu'un hamster. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'on est des humains, c'est cette espèce de plaisir.
Passerelle à l'autre.
Bah, bien sûr, et les légendes familiales, toutes ces choses-là, c'est quand même quelque chose de voilà, ça passerelle. C'est ce qu'on donne à l'autre. Et puis l'autre, le marabout bout de ficelle, l'autre, il le redonne à un autre, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Et nos histoires communes, donc les légendes, les contes, toutes ces choses-là, évidemment, ce sont nos histoires communes. Donc, ce qui est génial avec les contes, c'est que vous vous rendez compte, si je peux dire, qu'elles. Ces histoires, les contes, en fait, ils reviennent sur toute la planète. En fait, d'une culture à l'autre, vous avez des contes qui se ressemblent énormément. Donc ça, c'est quand même absolument génial.
Cendrillon est partout.
C'est fou ce rayonnement, quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Pour en revenir à cette histoire de nouvelles, où j'expérimente des petites... C'est comme un laboratoire portatif, les nouvelles. La première nouvelle, Auguste Palanquin, ce pauvre Auguste Palanquin que tout le monde surnomme Auguste Baraka, il y a quelque chose d'un peu fantasque dans cette nouvelle, un peu fantaisiste. Voilà l'histoire des malchanceuses anonymes, donc l'histoire des morts improbables et absurdes de sa famille, tout un tas de choses qui lui arrivent à ce garçon. Là, j'exerce une forme de fantaisie.
Oui, c'est jubilatoire à écrire.
Voilà, exactement. Et j'espère qu'à lire, on s'amuse. Mais je vais après faire un pas vers quelque chose de beaucoup plus. Alors, vous disiez glaçant, en effet, pour l'histoire de la montée des eaux. Et puis, il y a des choses plus mélancoliques, des choses plus crépusculaires. Et puis, voilà. Et puis, il y a des choses qui sont très. Dans l'intériorité des personnages, comme avec Eva Coppa, justement, le personnage de cette agente immobilière. Et puis il y a des choses aussi qui sont de l'ordre du surgissement de l'étrange. Vous avez une situation banale, une situation extrêmement ordinaire, et puis vous avez le surgissement de quelque chose d'extraordinaire, qui est quelque chose de, qu'on utilise souvent dans la nouvelle. Et donc là, on l'a par exemple avec cette vieille femme qui a organisé les funérailles de son mari, et puis il y a tout à coup quelqu'un qui surgit chez elle. Et en plus, je me suis amusée au fait sur le fait que ce qu'on pouvait imaginer de ce surgissement d'un personnage qui peut être dangereux, finalement, ça va se retourner complètement. Enfin voilà, j'aime en fait une proposition qui se retourne. La nouvelle permet ça, évidemment. Alors la nouvelle aussi, elle correspond à mon goût de la première phrase, de la dernière phrase.
C'est un plaisir.
J'écrirais que pour ça, moi, pour écrire des premières phrases et des dernières phrases. Et puis, et le goût de l'ellipse. Hein. J'adore ça. Justement, c'est un rapport au temps. Tout à coup, vous pouvez supprimer dans votre nouvelle, comme à la dernière des nouvelles qui s'appelle La Reine du Quartier. Je parle de deux adolescentes. Des amitiés à la vie, à la mort des adolescentes, les amitiés absolues là, qu'on peut vivre quand on est adolescente. Et je me sens féminin parce que j'ai l'impression que c'est encore plus fort chez les filles entre elles. Ce genre d'amitié à la fois compétitive, qui peut être cruelle, mais qui est amoureuse, qui est admirative. C'est très troublant, les amitiés adolescentes. Et puis on a l'impression qu'on sera la vie à la mort. Évidemment, c'est rarement comme ça, au fond. Et on va retrouver l'une de ces adolescentes quand elle est adulte et quand elle a, je ne sais pas, j'imagine 40 ans à la fin. Donc il y a les ellipses temporelles, c'est génial les nouvelles.
Oui, puis en même temps, il y a une espèce de cristallisation de l'ensemble des
personnages qu'on va retrouver. Voilà, donc ça aussi, c'est comme créer une espèce de communauté. Et ça, c'est très fantasmatique, créer des communautés et de personnages. Ouais. Et là, j'ai créé une communauté de personnages, une pseudo-communauté, mais c'est très agréable.
Oui, c'est un vrai plaisir de lecture, en tout cas. Un mot quand même, parce que c'est aussi un des thèmes récurrents dans le livre, et qu'on va explorer au travers de différents personnages, et particulièrement au travers de Bob, c'est la question du patriarcat.
Ah oui. Ah oui, ça revient souvent, j'arrive pas à m'en détacher de ça.
Je sais pas pourquoi.
Depuis mon premier roman, j'ai dû écrire il y a 27-28 ans, c'est qui racontait l'histoire d'une communauté de femmes dans un lieu imaginaire qui ressemblait à la jungle, avec un vocabulaire, un lexique, d'ailleurs j'avais en partie inventé, et ces femmes qui habitaient toutes ensemble dans une sororité magnifique avec les enfants. Et les hommes venaient une fois par an. Il n'y a pas de défiance entre eux. Hein. Simplement, ils avaient compris qu'en fait, ils étaient peut-être chacun pas tout à fait fabriqués pour vivre ensemble. Et les hommes venaient une fois, ils remontaient le fleuve, ils allaient voir les femmes, ils faisaient des enfants. Enfin, ils passaient un moment ensemble et puis après, ils repartaient. Et en fait, depuis finalement ce premier livre publié, et je ne m'en rendais pas bien compte de ce que j'avais fabriqué là. Parce que j'étais encore beaucoup dans une forme d'aveuglement, hein, de l'écrit, de l'écriture. Un aveuglement béni, hein, parce que pour moi, le fait, faut pas trop maîtriser quand même son imaginaire ou son invention, sinon ça sent la fabrication. Mmh. Et en fait, à partir de là, en fait, ça a infusé dans tous mes livres l'affaire de la domination des hommes et de l'émancipation possible des femmes. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant, mais c'est amusant parce que je me souviens quand j'avais publié Ce que j'essaie de Vera Candida en 2009, ça date d'il y a un petit moment déjà, et bien je me souviens que j'avais été interviewée par une journaliste au mois de juillet. C'est un livre qui était sorti en septembre, vous savez, donc c'était des interviews pour des mensuels, et elle m'avait dit, bon alors est-ce qu'on dit... on va dire que c'est un roman féministe, parce que bon, c'est un gros mot. Donc vous imaginez, ce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 14 ans. Alors maintenant, tout le monde dit « je suis féministe, homme, femme, même ceux qui ne le sont pas, évidemment. »
Bien sûr,
surtout ceux qui ne le sont pas, ils le disent haut et fort. Eh bien, je trouve ça amusant, en fait, la manière dont ça s'est goupillé. Alors c'est vrai que pour des raisons qui sont à la fois personnelles, et politique, c'est quelque chose qui a toujours été très présent pour
bien
moi.
Sûr.
Donc,
je Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit.
Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des ombres, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis en printemps, puis l'été. Toute saison pour aimer. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui s'aiment dans leur coin, les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous si peu de choses, des insectes trop petits? Ne sommes-nous donc plus des hommes pour nous laisser faire ainsi? Est-il encore temps d'aimer? De l'amour, j'aimerais m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées, sous le grand soleil avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Reverrai-je encore les neiges, les feuilles mortes s'envoler? Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-nous le temps d'aimer. Mais je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit.
Et là, comment est-ce que ça pourrait ne pas être présent quand vous êtes une femme? Comment vous pouvez regarder le monde autour de vous, que ce soit le monde à côté de chez vous, au travail, dans les transports, dans votre vie de couple, n'importe où, ou avec vos amis, ou avec les gens que vous aimez moins, et aussi ce que vous voyez sur le reste de cette planète, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir qu'il y a un petit problème là? J'adore la petite phrase de Badinter là récemment, j'avais dit alors messieurs, encore un effort. Et oui, parce que c'est pas encore tout à fait terminé. Le problème, c'est que comme ça s'emballe, ça s'est emballé depuis quelques années. Voilà, il y a un retour évidemment. Autour du pire, hein, avec les masculinistes, tout un tas de choses. Mais comme souvent, hein, quand ça s'emballe.
Ouais, et ça fait peur,
on pouvait remettre un couvert. Donc, dans ce recueil, oui, il y a des interrogations sur le patriarcat. Et donc, cette fille, cette Bob. Les premières choses. Donc, Bob, qui en fait, son prénom de naissance est Marguerite. Et donc, Marguerite Bob, en fait, sa grande affaire, c'est quand elle est enfant, elle se dit ok, d'accord. Donc, je suis une fille.
Faut mieux être un mec.
Mais oui, surtout parce qu'elle se dit, bon, alors, j'ai essayé une injonction contradictoire. C'est qu'on me dit, bon, pour être une fille, faut être désirée, faut être désirable, faut. Donc, comment ça se fabrique? Donc, elle pense au conte.
La princesse au petit pois.
Voilà. Alors, la princesse au petit pois, c'est quand même. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, la princesse au petit pois, finalement, il y a très très peu de suspense dans cette affaire, hein. C'est juste une jeune fille, une jeune princesse qui sonne une nuit très pluvieuse dans un château, et donc elle ressemble à tout sauf à une princesse, parce qu'évidemment elle est toute trempée, elle est pas à son avantage. Le prince lui ouvre la porte, le prince ça fait des années qu'il cherche la princesse idéale, et là en fait il se dit peut-être que ça sera elle. Alors pour être sûr que c'est bien la princesse idéale,
le critère de choix
c'est de la faire dormir sur une centaine de matelas et mettre un tout petit poids en dessous, tout en bas, tout en haut, sous le dernier matelas. Et si elle est délicate comme une vraie princesse devrait l'être, alors elle aurait eu du mal à dormir. Et c'est ce qui s'avère que ça va être le cas de cette princesse. Donc là, tout le monde est très heureux et tout le monde convole. Alors ça me fascinait quand j'étais gamine. Je me dis, ben en fait, ça c'est pas possible. Mais c'est ça en fait, être une princesse idéale, une fille idéale, une femme idéale, c'est être tellement délicate. On sent ce petit poids. Alors, je sais ce qu'on raconte de cette histoire, que le petit poids serait le clitoris, etc. On peut en avoir toujours une analyse de ce genre. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette affaire d'injonction à la délicatesse et en même temps qu'il y a une injonction contradictoire. Parce que quand vous êtes une fille, vous n'avez surtout pas envie d'être comme ça. Parce que le pouvoir est dans les mains de ceux qui ne sont pas délicats.
Oui, oui.
Et donc, la pauvre Marguerite Bob, en fait, tout à coup, elle s'est dit « Bon, bah, ça, je ne peux pas être comme ça, donc je vais imiter les hommes. » Et donc, elle imite les hommes. Elle parle comme les hommes. Elle
s'assied les jambes écartées.
Elle marche, elle se met à avoir une démarche d'homme. Elle a des attitudes d'homme. Parce qu'elle regarde, comment elle fait avoir des attitudes d'homme? Elle regarde les hommes autour d'elle, ses oncles, le jeune mec qui travaille chez l'épicier du coin. En fait, donc elle prend leur mimique, elle les imite devant le miroir, quand genre avec elle fait semblant d'avoir une clope à la main, elle fait semblant tout un tas de choses, elle mange comme eux, elle fait
et en fait la nourriture féminine, la nourriture masculine.
Et voilà, en plus elle genre tout.
Ouais.
Mais on est tenté de faire ça quand on est enfant, il me semble, qu'on soit garçon ou fille. C'est compliqué de s'identifier soi-même, ça on le sait bien, mais en plus de ça, cette affaire des genres est compliquée, sans que en plus ce soit, parce qu'elle, elle est vraiment une fille en fait. Quand elle veut se faire appeler Bob, sa mère se dit bon, alors ok, peut-être qu'elle veut devenir un garçon, mais en fait non, pas du tout, elle veut pas réellement être un garçon, elle veut être une fille mais avoir l'apanage des garçons, la possibilité d'être un garçon et en tout cas d'avoir entre ses mains leur pouvoir potentiel. Et donc ça, c'était quelque chose, je pense, que beaucoup de filles ont vécu quand elles étaient enfants. Moi, je me souviens, quand on était petite fille, on se demandait entre nous, je préfère être un garçon? Je suis pas sûre que la majorité des garçons se demandaient dans la cour de récré. Et toi, t'aimerais bien être une fille? Nous, on se le demandait tout le temps. Et on s'interrogeait là-dessus. Parfois, on se disait, ouais, j'aimerais bien. Et il y avait ce truc aussi, je me souviens, même quand on était adolescente, vous avez ces filles qui disaient toujours, mes amis, c'est que des garçons. Comme si c'était plus valorisant d'avoir que des amis mecs. Et en fait, ça me fascinait. Je me disais, j'aime bien, j'ai quelques amis mecs, enfin la majorité, c'est quand même des filles. Et donc, c'est comme si c'était, voilà, il y avait quand même tout le temps quelque chose de
malheur.
Il y avait quand même une échelle de valeur, ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est la difficulté qu'elle a, cette pauvre petite Marguerite Bob.
On va laisser nos auditeurs découvrir comment elle redeviendra rose.
Oui,
voilà.
Ça passera par...
Il y a tout un chemin d'improvisation aussi, et ça, voilà, c'est important, voilà. Ça fait partie de nos vies imparfaites, savoir aussi improviser.
Oui, c'est très juste, c'est un thème qui me plaît beaucoup, l'improvisation.
C'est Véronique Ovalder, c'est à nos vies imparfaites, c'est paru chez Flammarion, c'est un vrai plaisir de lecture. Et alors, il y a un roman en préparation, qu'est-ce que ça va être ensuite ?
Là, je ne sais pas exactement, j'ai encore rien commencé, mais oui, je pense que là, je vais... Alors, c'est tentant, les nouvelles, c'est tellement
génial
à écrire, parce que vous avez des sujets de nouvelles qui vous tombent dessus toutes les deux minutes, et donc, ça serait tentant d'en écrire beaucoup, d'en écrire des nouvelles, ce que je ferais, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et je vois qu'en plus... C'est plutôt bien reçu, donc voilà, contrairement à cette idée reçue que la nouvelle, les gens n'aiment pas ça, les lecteurs n'aiment pas ça. Donc, alors pourquoi pas, s'il y a des lecteurs et des lectrices potentiels, pourquoi pas. Mais ça sera plutôt de nouveau me plonger dans une écriture au long cours, donc dans un roman.
Merci.
Merci beaucoup,
Alexandrine.
Roi du libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire et c'était Véronique Ovalder qui nous parlait de « À nos vies imparfaites », recueil de nouvelles paru chez Flammarion. Et maintenant, on retrouve avec le plus grand plaisir Gérard Guégan qui va nous parler de son livre « Le chant des livres » qui est paru chez Grasset et c'est un régal.
Thank you.
C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve Gérard Guégan, mais Gérard Guégan pas en tant que chroniqueur aujourd'hui, en tant qu'auteur et auteur d'un livre qui est paru chez Grasset et qui s'intitule « Le chant des livres ». Alors moi, j'ai beaucoup aimé « Le chant des livres » et je vais te dire d'emblée pourquoi. C'est que ça m'a fait sourire, rire, découvrir des tas de choses et en même temps réfléchir. Alors c'est quand même une bonne base pour un livre parce que tu y parles de ton rapport au livre, de comment il est né, et on va en parler dans quelques instants. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu peux citer des auteurs très connus et d'autres dont j'ignore absolument tout. Mais c'est pas parce que je ne connais pas ces auteurs que je n'ai pas eu d'intérêt à lire ce que tu en écris. Et ça m'a donné envie d'aller voir. Et je trouve que c'est important. Et on va commencer par ça si tu veux bien. Le chant des livres, ça commence à Marseille. Et Marseille, c'est pas rien dans ton histoire et c'est pas rien non plus dans ta découverte des livres. Et tu nous racontes un peu comment tu as plongé, toi, dans les livres avec un éclectisme important puisque cet amour des livres te conduit de la Bibliothèque Verte au Polar en passant par des très grands auteurs. Mais on va parler en premier de Marseille parce que Marseille, c'est presque un personnage du livre.
Oui, mais Marseille, c'était à la fois la ville qu'on voulait fuir, puisqu'on s'est, à partir, disons, de l'âge de 13-14 ans, on a commencé à se rassembler, à être des amis. Je veux dire, non, on n'était pas 10 ni 5, mais déjà 2 ou 3, on était là, on rentrait tard chez nous parce qu'on était de fils de gens pauvres et que c'était pas un souci de pouvoir rentrer à 11h ou à minuit. Ni mon père ni ma mère n'ont jamais fait la réflexion. Et donc, je me souviens de places, je me souviens de bancs sur lesquels on s'asseyait, on fumait des cigarettes de pauvres, les P4.
Les P4, ouais.
Et on se racontait l'avenir. L'avenir, c'était se tirer. C'était partir, c'était fuir. Et en ça, c'était capital. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé puisqu'en 1959-60, il y a eu deux chevaux qui ont quitté Marseille avec 7 ou 8 personnes à bord, des deux, et qui sont restés pour la plupart à Paris, qui vont faire de la télévision, qui vont faire du journalisme et tout ça. Et tout ça venait de Marseille. Plus tard, quand j'y suis retourné, que j'ai vu qu'effectivement il y avait du théâtre désormais, il y avait des choses qui se passaient qui ne se passaient pas du temps de ma jeunesse. Dans ma jeunesse, heureusement qu'il y avait le cinéma et les livres, évidemment, mais les livres, dans mon cas, c'était assez difficile. Et moi-même, comme toi, j'ai beaucoup découvert à travers les gens que j'ai rencontrés et qui me parlaient. Je me souviens par exemple d'un poète, Gérard Arseguel, que je considère comme un grand poète français, qui est mort, et qui d'ailleurs est un peu à l'origine du livre. Parce que quand il est mort, je me suis dit, oh, ça serait bien d'écrire sur lui. Oui, et oui, puis là-dessus, Jean-Jacques Schull m'a appelé, et ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, on devrait écrire un livre, tous les trois. Je lui ai dit, mais attends, il y en a un qui est mort. Il me dit, mais oui, mais quelle importance. Et donc, nous allions le faire revivre et lui donner les mots qu'il avait dit ou prononcé. Et là aussi, Arseguel, c'était Marseille complètement, parce que Marseille, c'est à la fois, il ne faut pas oublier, ce n'est pas simplement Pagnol.
Non.
Et je ne suis pas contre Pagnol. Cinéaste, écrivain, je trouve que c'est pas très très important ni passionnant. Et donc, il voulait faire ça. Bon, et soudain, il s'est mis à parler de Marseille, et ça, je m'y attendais pas. Parce que je pensais que Schull était, au fond, lui aussi, il est parti très jeune de Marseille. Et que donc il avait il n'avait pas d'attachement avec ça. Et brusquement, il a manifesté au téléphone son attachement. C'est un attachement profond. C'est-à-dire, c'est quand même une ville où tout peut arriver, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Où tout peut arriver, où la violence est partout et en même temps la passion elle est aussi. C'est une, vraiment, c'est pas pour rien que on lisait tous Sandrars à partir d'un certain âge. Sandrars, c'était pour nous, lui qui était suisse, on en faisait un Marseillais d'honneur, parce qu'il a beaucoup écrit sur Marseille, sur les quartiers de Marseille et tout ça. Et, bon, donc Marseille, c'est ça, c'est la rencontre, c'est aussi les premiers grands amours, c'est aussi les premières passions, les premières disputes, c'est tout ça, mais c'est la genèse de chacun. Mais il se trouve que, curieusement, j'ai souvent parlé avec des gens, avec des citadins d'autres villes, des habitants d'autres villes, oui, eux aussi, c'était un petit groupe et tout ça. Mais là, c'était pas un petit groupe, c'était un tout petit au début, puis à la fin, je te dis, on était bien une vingtaine à se parler. On avait deux ciné-clubs dans Marseille qui étaient à nous, quoi, je veux dire. C'est nous qui les y avions créés, et donc ça venait du monde, évidemment, parce qu'on sortait des films. À Marseille, il y avait très peu de films en VO, donc nous, on a amené les VO, on a amené tout ça, on a amené des metteurs en scène, et la littérature est venue après, mais elle est venue. En fait, on pensait pas devenir ceux qui ont écrit depuis. On pensait pas écrire. On pensait faire des films. Et puis, finalement, c'est quand même l'écriture qui l'a emporté parce que c'était ce qu'il y avait de plus fort en nous. Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce démarrage dans l'univers des livres. Tu cites comme phrase en exergue « qui veut se connaître, qu'il ouvre un livre ». Et c'est tout à fait ça. Et cette découverte des livres à Marseille, elle se fait de manière, moi qui m'a intéressée, parce qu'elle se fait au travers de la bibliothèque américaine, elle se fait au travers d'une librairie tenue par une anarchiste, tout ça sur fond de cinéma américain et de diktat du Parti communiste qui définit quel est un bon auteur et quel est un mauvais auteur. Donc au milieu de tout ça, tu fais ton chemin et je dois dire que c'est un plaisir à découvrir.
Oui, à partir du moment où tu me dis que tu as eu beaucoup de plaisir, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas rebondir là-dessus, je ne vais pas dire « bah ouais, c'est bien, bravo !» Moi aussi, non, c'est... Je suis content d'entendre ça, évidemment, mais c'est aussi des souvenirs de tristes, Marseille, c'est... Je pourrais parler longtemps de Marseille. C'est Marseille, c'est les pâtes, par exemple, pour nous, les mangeurs de pâtes, c'est pas cher les pâtes,
eh ben oui.
Les sauces, manger des pâtes au cirage, c'est-à-dire avec de l'encre de sèche, donc des pâtes totalement noires et qui te faisaient la bouche noire.
Lecteur paisible et bucolique, sobre et naïf homme de bien,
jette ce livre saturnien, orgiaque et mélancolique.
Si tu n'as fait ta rhétorique chez Satan, le rusé doyen,
jette, tu n'y comprendrais rien ou tu me croirais hystérique.
Mais si, sans se laisser charmer, ton œil s'est plongé dans les gouffres,
lis-moi pour apprendre à m'aimer.
Âme curieuse qui souffre et va cherchant ton paradis,
plains-moi, sinon je te maudis.
Et puis à Marseille, il y a bien sûr un prof de philo qui a le malheur d'être sartrien, ce qui déclenche un peu les foudres des communistes locaux, mais qui va quand même emmener ses élèves rencontrer un écrivain et pas n'importe lequel.
Oui, c'est Giono, et qui est à ce moment-là, aujourd'hui je pense que ça a changé, mais à ce moment-là, et la bête est l'ennemi.
Oui.
Pour les communistes, c'est l'ennemi. Parce que les dirigeants, en plus, savent une chose que le militant ne sait pas, c'est que c'est le Charles Tillon qui, en 1952, a été exclu du parti, qui était le patron de FTP, le fondateur des FTP, les francs-tireurs et partisans, donc résistants, tout membre du bureau politique. Il est exclu en même temps que André Marty, mais Tillon a réussi à se cacher, si je puis dire, à disparaître dans les restes d'un village du Vaucluse, dans une maison qu'il a retapée, tout ça, et qui était une maison qui appartenait à un beau-frère de Giono. Et ça, évidemment, nous, on ne le savait pas, mais je te dis, les dirigeants le savaient. Alors, donc ça a ajouté encore plus à la haine contre Giono et à la haine, même contre, évidemment, en tout cas, détestation contre Tillon. Tout ça, c'était lié. Mais c'est quand même au sein de ce parti que j'ai appris un soir l'expression hitlero-trotskiste.
Oui, c'est quand même grandiose.
Voilà, c'est grandiose, mais c'est pas facile à porter, et ça dit bien l'état d'esprit de l'époque.
Oui, bah c'est Kafka qui en fait les frais aussi.
Oui, c'est mais tout est comme ça. Alors, c'est très formateur, au fond. Au fond, c'est mieux ça, c'est mieux de se retrouver dans une ville où quand même c'est difficile, où on peut se battre pour un oui ou pour un non, on échange des coups de poing, tout ça. C'est une ville violente, Marseille. C'est une ville sale en même temps, ça l'est toujours, hein, ça j'en suis convaincu. Et en même temps, il y a l'attrait pour les belles choses, pour la littérature, tout ça, et c'est très formateur parce que on n'a rien. Parce que pour la plupart, on va très vite, on n'a rien. On lit pas on n'a pas les livres et tout ça, donc on va les découvrir petit à petit. Donc on va dans des endroits où on peut les lire, mais on n'est pas dans des familles qui portent à ça aussi. Donc tout ça, c'est un mélange et ça aurait pu ne rien donner. Et il se trouve que ça a donné pas mal de choses, quoi. Pas toutes sont, j'allais dire, remarquables, mais suffisantes, et en tout cas, à vivre, quand on le vivait, qu'on avait entre 15 et 16, 17 ans, j'ai quitté Marseille, c'était 20 ans, je crois, hein. Enfin, plus exactement. D'ailleurs, j'ai écrit aussi ce livre pour tenir à l'écart ce qui guette tout le monde en vieillissant, c'est-à-dire la perte de mémoire. Je me suis dit autant mettre les choses sur le papier, mais pour autant, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, ce ne sont pas des mémoires. Alors c'est quoi? Eh bien, je réponds toujours, c'est une légende. Mmh. Voilà, parce que j'ai, avant de lire Kafka en poche ou Sandrart, tout ça, ou Genoux même, j'ai d'abord lu très jeune les contes et légendes. C'était un voisin du dessus, l'étage du dessus dans l'immeuble où on habitait, qui avait un peu plus de moyens matériels que nous en avions. Parce que tu t'en rends compte que, par exemple, on avait dans quoi on vivait, ma grand-mère avait une chambre rikiki, et dans cette chambre rikiki, il y avait un autre lit tout aussi misérable et le dans lequel il y avait un de ses fils. Il y a donc la mère et le fils qui dormaient côte à côte, et c'était pareil dans une autre pièce, il y avait mon père, ma mère, ma sœur. Bon, c'était, la culture, c'était secondaire. Mais c'est ce que j'ai cru et croyais. Et or, encore ces jours-ci, comme par hasard, je vais revenir aux contes et légendes, mais comme par hasard, j'ai vu dans un coin, j'ai des livres un peu partout, le dos d'un livre avec une femme nue et un serpent qui l'entoure. Je me suis dit, mais c'est le Salammbô, ça. Oui, c'est Salammbô. Et c'est Salammbô, donc, dans une édition Garnier.
Ah, la vieille édition, ouais.
Et d'un seul coup, c'est revenu quelque chose dans ma mémoire. Bon, j'ai été assez injuste avec mon père dans ce livre, mais je ne l'ai pas peint comme... Et c'est lui qui me l'a offert. c'est lui qui me l'a offert, et à l'époque, je mettais la date d'acquisition du livre. C'est donc, j'ai 14 ans, 1954, c'est pour mon anniversaire. C'est quand même assez exceptionnel. Et je me souviens que ma mère l'a engueulé en lui disant, tu sais que ce livre avec une femme nue et tout ça, tu donnes ça à ton fils, voilà. Donc, je me suis souvenu de tout ça, je me dis, tiens, ça aurait pu être, mais ça peut être dans un prochain, quoi. Voilà. Alors, maintenant, les contes et légendes, c'était donc ce gamin qui allait aussi au lycée, au même lycée que moi, lui, et au même collège d'abord, et il disait, quoique c'était un lycée. Moi, j'ai fait les premières classes au lycée aussi. Le petit lycée, on disait. J'ai fait, oui, la 11e, 10e, 9e, 8e, 7e. Et lui aussi. Et lui avait plus d'argent. Son père était vaguement ingénieur ou quelque chose comme ça. Et donc, il avait une collection, la collection Contes et légendes. Et il me les prêtait. Et je les ai tous lus quasiment. Et ça me plaisait beaucoup. Parce que c'était de la légende. Et que la légende, c'est une part. Il y a une part de vraisemblance, une part de plausibilité et une part d'invention. Et plus tard, quand je deviendrai un peu plus savant, je lirai par exemple Schwab, découvert grâce à Arcegel d'ailleurs, qui m'avait recommandé un livre, le livre de Monel, offert au moins à 50 personnes dans ma vie, en disant voilà ce qu'il faut lire, Marcel Schwab. Et donc Marcel Schwab, c'est lui qui, dans un livre qui s'appelle Spicilège, il vante l'invention au détriment de la réalité. Quoi, c'est-à-dire qu'il pense que quand on doit parler de personnages qu'on pense importants, et puis à ce moment-là, on n'est pas tenu à les décalquer, si je puis dire. On peut faire un pas à côté et leur attribuer des mérites ou des connaissances ou des relations qui n'ont peut-être pas été les leurs, précisément, mais en tout cas qui auraient pu être les leurs et qui en tout cas les expliquent. Voilà.
Mais effectivement, ce qui ressort de ton livre, et si je peux me permettre, c'est que il n'y a pas de grande littérature et de petite littérature. Il y a des livres qui nous emportent, et peu importe s'ils sont des contes et légendes, de la Bibliothèque verte, de la série noire, de la poésie ou de la Blanche de chez Gallimard. Il y a une histoire, elle te prend aux tripes ou elle te prend pas. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Et effectivement, même s'il faut s'accommoder avec le réel, s'il faut faire ce travail d'écrivain qui est de donner au lecteur le mouvement de la vie, le mouvement de la passion.
Oui, c'est exactement ça. C'est donner aussi l'envie de lire, tout simplement.
Mais oui.
Et... Oui, c'est ça. Mais est-ce que l'époque peut l'entendre, ça
Je pense qu'on va y revenir, parce qu'il y a quand même une...
Quand je vois tout à l'heure, pardon, je t'interromps. Vas-y. Tout à l'heure, j'ai vu sur Facebook une photo d'il y a 60 ans, bientôt. De 60 ans, de 68, donc, où il y a Danny, on dirait qu'il a 12 ans, et qui tient un livre qui a compté pour moi, puisque c'est un livre que m'a offert la libraire d'occasion, c'est La Révolution inconnue de
Voline. De Voline, bien sûr.
Et donc, tu vois ça et tu te dis, mais qui... Moi, je suis très attentif à ce qui se passe politiquement, etc., etc. Mais je ne vois pas de livre, je ne vois pas de manifestants en se revendiquant ou je ne sais pas comment dirais-je, ou s'appropriant un livre et ne jurant plus que par un livre. J'ai l'impression que les livres sont absents des mouvements. En tout cas, les livres qui sont censés éclairer celui qui les lit sur la réalité de son époque. Donc, par exemple, c'est pas Voline aujourd'hui, il faudrait lire, c'est autre chose. Mais c'est autre chose, peut-être ça n'a pas été écrit, et peut-être aussi que ce n'est pas, donc c'est pas été écrit, c'est pas disponible, etc., etc., j'en sais rien, mais en tout cas je constate ça, voilà. Et alors c'est pour ça aussi que parmi ceux qui ont lu Le Chant des Livres, les plus jeunes me disent, mais vous lisiez beaucoup, et c'est quoi ce livre et tout ça. Bon, voilà. Donc, le passage n'a pas été vraiment fait.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Faut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les verres à porter l'écriture. On s'est pointé à vin, en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son livre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos. On crie le paravoir, on payera plus tard en coupure de journaux. Café littéraire, y'a guère que la tonnière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le boudin cachené au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivez l'itinéraire, c'est sous le dernier penche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. L'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de nylon.
Oui, alors il y a la dimension, effectivement, lecture et donner le goût du livre et de lire des livres qui ne sont pas forcément des livres uniquement d'actualité, mais des livres qui sont parus avant le retour sur ce qui a existé. Et puis, le champ des livres donc, que tu as écrit, Gérard Guégan, paru chez Grasset, ça aborde aussi la question de qu'est-ce qu'on fait quand on veut écrire. Et pour ça... toi, tu vas être amené à rencontrer différents personnages. Et le premier, c'est quelqu'un qui va te conseiller un soir où tu le rencontres par hasard chez Grasset, chez Gallimard, pardon, et qui va te donner des conseils en matière d'écriture.
Oui, enfin, c'est un conseil. Si je voulais être, c'est Jean-Paul Laure, si je voulais être Rimbaud, ce que je ne voulais pas être, mais en tout cas, la conversation s'était engagée de telle façon que, comme j'avais dit que c'était mon poète préféré, donc ça, on a poursuivi sur ce nom et sur ce ton, et à ce moment-là, Poulenc m'a dit, au fond, méfiez-vous, si vous aimez, donc, autant que vous le dites, je résume la
rencontre.
Oui, si vous aimez Rimbaud, autant que vous le dites, ne le copiez pas, ne vous en inspirez pas. Inspirez-vous de ce que vous n'aimez peut-être pas, du moins ce que vous croyez ne pas aimer, et c'est là qu'est votre vérité. C'était totalement abscon et là, je l'ai un peu éclairé, mais pendant quelques secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas lire les... Alors, j'ai pensé parmi ceux qui ne m'attiraient pas à tout ce qu'on lisait, tout ce que la société française lisait à l'époque encore, c'est-à-dire André Soubiran, Guy Descartes, des gens comme ça. Je me dis, ne parle pas de ça, quand même. En tout cas, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. C'est comme toujours avec Colomb, que j'admire profondément, que j'aime aussi. C'est ici, il y a toujours un moteur en retardement. Ça met du temps à pénétrer l'esprit et la tête. Et c'est bien pour ça que sa phrase de, si vous voulez savoir ouvrez un livre, oui, c'est ça. Ça manquait. On avait autour de nous, dans le 18-19 ans, on a commencé à avoir beaucoup de poètes, puisque on a été approché par la revue Action Poétique. Et donc, ils nous ont tout de suite ouvert les pages en nous donnant une dizaine de pages pour écrire sur le cinéma. Et on a formé le groupe Contrechamp. Donc, en dehors d'eux, mais qui savaient plus de choses que nous, mais pas beaucoup plus, et c'était pas tout à fait ce qu'on recherchait. Connaître Polance. En plus, j'ai jamais su faire ça. J'ai jamais su m'accrocher à quelqu'un comme le font certains, et ensuite ils écrivent des livres sur la personne à laquelle ils se sont accrochés. Moi, j'ai été incapable. J'aurais pu continuer avec Polon. Franchement, j'aurais pu lui envoyer un mot deux jours après, essayer de le voir un jour, puisqu'il m'avait invité à venir le voir, puisqu'en plus j'entrais à l'Humanité, ce qui n'était pas rien à l'époque quand même. C'était important, l'Humanité, ça avait encore une influence. Et donc, Polon ne la négligeait pas, puis il connaissait bien les dessous de tout ça. Donc après ça, il y a eu Henri Thomas, par exemple. Henri Thomas, j'en ai lu une dizaine, quinzaine, ça me plaisait beaucoup, tout ça. On s'est rencontrés à la Une, un soir de l'hiver, il y avait le vent qui soufflait sur Paris, on a parlé du vent qui souffle sur les îles en Bretagne parce qu'il adorait l'île d'Ars. Et puis, je n'ai pas continué. Je veux dire, au bout d'un moment, je me disais, c'est plus intéressant de rencontrer des gens qui, comme toi, n'ont encore envie de découvrir, tandis que là, si tu le vois tout le temps, te raconteras une histoire et ce n'est pas ton histoire. Voilà. Donc, les gens dont je parle, je les ai vus souvent qu'une fois ou deux fois ou trois fois. Donc, je ne sais pas. Oui, ça n'a pas duré des mois, des semaines, des mois et des années, encore moins.
Mais ce qui est intéressant, toujours sur le chemin de l'écriture, parce que ce livre parle beaucoup de ce chemin-là, je vais citer. En somme, vous cherchez à me faire dire ce qu'est un romancier. Eh bien, c'est un éboueur. Et s'il ne l'est pas, c'est un escroc. Pourquoi un éboueur? Mais parce que le romancier, le vrai, va chercher ses sujets dans les poubelles. Même chose pour le style. Réfléchissez, c'est dans ce que l'humanité jette et rejette que se dissimule le secret de ce qu'on appelle la vie. Et c'est cette musique du refoulement et de l'effroi que l'écrivain éboueur rend visible.
Ah, c'est mon ami Henry Miller.
Ah bah oui, ça aussi c'est dans ton livre et c'est pas rien.
Ah oui, c'est pas rien, mais là encore, plus tard j'ai vu qu'il avait conservé des amitiés en France, qu'il voyait, j'aurais pu continuer. Un qui faisait ça très bien et qui a fait ça très bien, c'est Raphaël. Oui. Raphaël Morin, que j'ai connu beaucoup plus tard, il a fallu que je vienne à Paris, et même c'est après 68, donc c'est pas les amis de Marseille, ça va venir plus tard. Raphaël Sorin, quand il rencontrait quelqu'un, il nouait une vraie relation, c'est-à-dire qu'il le revoyait, tout ça. Il avait des photos, il avait des témoignages. Moi, j'ai détesté quand on photographie. C'était assez étrange, quoi, notre relation entre Raphaël et moi là-dessus. On n'avait pas du tout le même regard. Lui, je suis sûr que l'histoire de Miller, il en aurait fait plus que ce que j'en ai fait, quoi. Je faisais un ou deux feuillets, et lui, il aurait fait.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est pas ce maintien d'un lien continu, mais c'est le fait qu'à certains moments, tu tombes sur quelque chose qui va te laisser une empreinte. Et là, c'est un peu le cas. Et moi, je vois ça comme un espèce de chemin avec différentes pierres qui vont être déterminantes.
Oui, c'est presque... Non, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. Mais c'est, en fait... l'influence de une ou deux pages,
oui.
Si j'en écris une ou deux pages, c'est parce que ça correspond au style que j'attribue à la personne ou à l'écrivain en question.
Tout à fait.
Voilà. Je, ce qui m'intéresse, je m'en fous, moi, au fond de Giono. Disons que je me fous de tout. Ce dont je me fous pas, c'est que je veux que ça ait du style et que ce style soit là et que ça ressemble quelque part que ce que je leur fais dire et ce dont je me rappelle leur correspond à la vision qu'ils avaient du monde et tout ça. Voilà, c'est aussi un exercice d'écriture pour moi, je veux dire. Si c'est pour raconter deux points ouvrés les guillemets, non.
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. L'infini roulait blanc de ta nuque à tes reins. La mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saignait noir à ton flanc. Souverain,
mais c'est d'autant plus intéressant que je pense à un autre exemple. T'es un moment en train de jardiner dans ta maison et on te demande de faire un papier sur Roger Nimier que tu n'as jamais rencontré. Et tu vas faire un portrait de Nimier qui va être mis en combien, 7 lignes, c'est ça? Que tu cites dans ton livre, donc Le Chant des Livres paru chez Grasset. Et j'ai trouvé que c'était aussi fort que ces vraies rencontres que tu avais pu avoir avec des auteurs.
Oui, c'est là où on retrouve Schwab et les Spicillers.
Ouais.
Au fond, c'est ce que je parlais s'entendre à propos du portrait, de l'œil, tout ça, etc. C'est pas la peine parfois de rencontrer les gens qu'on aime pour continuer à les aimer à partir du moment où ils écrivent. Mais évidemment, c'est pas pour tous les gens. Voilà, pour un écrivain. Et en l'occurrence, en tout cas pour Nimier, c'est ça. Pour Nimier, il y avait aussi autre chose. Pourquoi je l'ai mis dans ce livre et tout ça, alors que c'est juste, c'est même pas à lui que j'écris. Il apparaît même pas, parce qu'il pourrait être, par exemple, loin et un jour le découvrir, mais il est déjà mort de toute façon, évidemment. Mais je pourrais, bon... Le rencontrer, je sais pas, avoir accès à sa correspondance, à des lettres, à tout ça. Non, c'est pas ça. C'est aussi le souci de provoquer. Parce que, vu ce qui précède, Nimier apparaît, je suis sur choc, et on choquera quelques-uns. Mmh. Qu'est-ce que ça vient faire, Nimier, quand même, c'est pas notre culture. Bien, ils se trompent parce que moi, en tout cas, c'est notre culture.
Ah bah, c'est tout un questionnement aussi que tu fais sur qu'est-ce que c'est qu'un écrivain de gauche et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain de droite. Et ça m'a fait beaucoup rire dans ta liste aussi.
Oui, c'est... Aujourd'hui, c'est revenu, ça, un peu. on apprend que il y a au moins deux des derniers prix Goncourt qui se donc sont de gauche en tout cas. Ils sont pour les pauvres, comme on dit. Ils parlent beaucoup de pauvres. Ça va. Je sais pas, ils pourraient dire gauche, ça suffirait, mais bon. Donc les pauvres, et donc ça me fait sourire en même temps, parce que c'est, si c'était ça un livre, si c'était affiché, ça.
Heureusement que c'est plus que ça.
C'est plus que ça, voilà.
Heureusement.
Ça permet d'éviter, par exemple, que l'un de ces deux écrivains, à qui on fait un mauvais procès en ce moment, sous prétexte qu'il vit une histoire d'amour avec un membre de la famille princière de Monaco, à la fois ça fait sourire et à la fois, bon, pourquoi pas, pour celui, moi j'en ai rien à foutre. Il y a 30 ans, j'aurais été de ceux qui l'auraient attaqué là-dessus, mais aujourd'hui, je m'en fous. Il peut coucher avec qui il veut et tout ça, c'est pas ça qui me gêne, c'est rien qui me gêne.
C'est le livre qui compte.
Que j'ouvre ces livres, ça me tombe des mains. Et comme disait Céline, qu'il faut pas citer, à Blondin, il disait, tu vois ce que j'aime dans tes livres, Antoine, c'est que lorsqu'ils m'échappent des mains et qu'ils me tombent sur le pied, ils me font pas mal. Ça, je veux dire, le type qui est qui a, je sais pas si, c'est comme ça vient de Blondin, est-ce que c'est Blondin qui l'a écrit après, est-ce que c'est, mais c'est tout à fait du Céline aussi. C'est en tout cas assez remarquable, et ça me fait vraiment rire. C'est vrai que, j'ai plus appris en regardant certaines lignes, certains romans, certains récits de Blondin, que en lisant ce qu'on appelle la grande littérature, celle que
oui,
c'est ce parle, que... qui est pas ça, qui est à la mode. Voilà.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de grande et de petite littérature. Mais alors moi j'ai une question parce que
des petits écrivains, ça oui.
Oui, ça oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai une question à propos du Champ des Livres, paru chez Grasset, écrit par Gérard Guégan, c'est que, bien sûr, à la fin, on va retrouver Rimbaud à Charleville, Rimbaud qui est donc présent dans tout le livre, et bien sûr. Mais avant de parler de Rimbaud, moi, j'étais étonnée parce que je m'attendais à trouver plus Stendhal.
Quoi, on met...
Je m'attendais à trouver beaucoup plus Stendhal, et tu le fais que le citer très brièvement.
Ah oui, il n'a pas sa place celui-là, parce que Rimbaud, je suis quand même allé dans sa maison, c'est pour ça qu'il est là depuis moi. Je sais que j'y suis allé, donc au départ, quand je commence à mettre en scène Poland et tout ça, je connais le résultat.
Ben oui.
Stendhal, j'ai écrit sur lui, j'ai fait un livre sur lui. Mais c'est, je veux dire, ça n'a pas la même influence dans la mesure où je l'ai pas senti, je l'ai pas, c'est pas un proche, c'est un proche sans être un proche. C'est comme, il est pas de la famille, mais il est de la bande, mais pas de la famille, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est comme ça, quoi. Il est, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, j'aurais pu en mettre d'autres.
Oui, mais voilà, c'était une question. Alors Rimbaud, ben bien sûr qu'il faut en parler de Rimbaud, parce que dès le départ, il est présent, il est dès Marseille, Rimbaud, de toute façon. Il est là au début.
Et puis Rimbaud, c'est le jour où je l'ai lu, ça a été le choc. Hein. Mais par exemple, j'ai oublié quelque chose. C'est alors que j'écrivais, et que je parlais du lycée et tout ça, j'ai oublié comment je suis devenu... ami avec un autre lycéen, l'ami d'un autre lycéen qui était dans la classe d'à côté, si je puis dire, et parce que j'ai appris que dans un devoir de français, il avait cité un vers d'un poète dont j'ignorais tout, on devait être en quatrième, là, ouais. Et qui s'appelait Baudelaire, et c'est Homme libre, toujours tu chériras. Et ça, j'en ai bassiné du monde avec ça. Pendant des années, à un moment donné ou un autre, hop, je recitais ce vers de Baudelaire. Donc Baudelaire a eu, de ce point de vue, aussi beaucoup d'influence. Bizarrement, les poètes ont souvent eu plus d'influence que les romanciers. même si je n'ai lu plus de romanciers que de poètes. Bon, bref. Voilà. Voilà, voilou.
Ça s'appelle Le Chant des Livres. C'est de Gérard Guégan. C'est paru aux éditions Grasset. Ça se lit, ça se relit. Même si certains auteurs, vous ne les connaissez pas, eh bien, vous allez les découvrir et ça donne envie de les lire. C'est drôle. Vous y apprendrez comment faire pipi aussi dans la maison d'auteurs illustres. Non, je dis ça pour plaisanter, mais non, non, c'est très riche. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est qu'on peut découvrir un auteur au travers d'une partie de pétanque. Et moi, je suis très sensible à cette vision un peu décalée des choses et je te remercie de nous avoir donné ce livre à lire.
Eh bien, c'est moi qui te remercie et qui vous remercie qui m'a pris la peine d'écouter cette émission et de m'écouter raconter mes petites histoires. Voilà. Merci à tout le monde.
À bientôt. Le Chant des Livres de Gérard Guégan, c'est paru aux